Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Le Grand Dialogue. Ce soir, cette émission se tient en marge de la Journée mondiale de la radio, le célébrée chaque 13 février. La radio, ce média qui informe, éduque et rassemble même dans les zones les plus reculées du Mali. Mais à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle, la radio fait face à de nouveaux défis. Comment rester pertinente quand l'information circule en continu sur les réseaux sociaux? L'IA, l'intelligence artificielle, peut-elle renforcer la radio ou menacer le métier de journaliste? C'est le débat de ce soir et nos invités sont Mamoudou Bokoum, président de l'URTEL, l'Union des radios et télévisions libres du Mali, à ma gauche. Et à ma droite, vous avez Hawa Koulibaly de la Fondation Twindi. Je suis Mariam Maïga pour la modération de cette émission. Encore une fois, auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Une première question, tour de table. Mais nous allons donner la parole à Monsieur Radio, le président des radios du Mali. Mamoudou Bokoum, quel regard portez-vous sur la radio malienne aujourd'hui à l'heure du numérique?
Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, le regard que je porte aux radios maliennes, c'est que c'est un médium résilient face à toute cette évolution technologique auquel nous subissons ou nous profitons en tout cas de ces avancées ou de ces conséquences, de ces inconvénients. Et la radio malienne à l'ère du numérique aujourd'hui a tendance à s'améliorer davantage parce que comme je l'ai dit, c'est l'évolution, on est obligé d'évoluer avec le monde, mais malgré cette volonté, il y a quand même des défis pour que ces radios maliennes soient en phase avec la réalité du moment, notamment avec la fracture numérique, avec la crise énergétique, avec le manque ou en tout cas l'insuffisance de personnes, ressources compétentes dans le domaine. Vraiment, aujourd'hui, quand vous prenez de façon globale les radios maliennes, rares sont celles-là qui ont migré vers le numérique et en tout cas, c'est un défi à relever.
Alors, vous avez emboîté le pas. Est-ce qu'aujourd'hui, parlant du numérique, on sait que ce sont les jeunes, hein, les grands utilisateurs du numérique aujourd'hui. La radio garde-t-elle aujourd'hui sa place auprès de la jeunesse?
Elle est obligée parce que vous savez, quand le monde évolue, il faut évoluer avec le monde. Il faut tenir compte de cet aspect jeune et voir comment les radios aussi vont se digitaliser. Si les jeunes sont quand même sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, les radios, pour rester vivantes, elles sont obligées de migrer vers ça en faisant des émissions, plutôt en créant des plateformes pour les radios ou tout simplement pourquoi ne pas faire une diffusion en streaming pour permettre au plus grand nombre de jeunes, pour garder quand même cette masse importante d'auditeurs à son niveau. Donc, on est obligé aujourd'hui, pour rester vivante, vraiment d'aller vers cela, vers la digitalisation, et pour être en phase avec les autres.
Awa Koulibaly, je me tourne vers vous. C'est toujours la même question, la radio à l'heure du numérique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le téléphone est-il aujourd'hui plutôt un concurrent ou un allié?
Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie pour l'invitation et également pour l'opportunité de discuter de cette thématique-là. Alors, il faut voir que le numérique ou les téléphones, le plus on avance, le plus on se rend compte qu'ils ne sont pas nécessairement opposés. Alors, comme Bokoum l'a dit, les radios sont aujourd'hui dans l'optique de s'adapter aux avancées technologiques. Il y a beaucoup de radios qui vont vers les réseaux sociaux parce qu'ils essayent de toucher une couche qui, elle, est déjà présente sur les réseaux sociaux, notamment les jeunes. Donc, les téléphones peuvent être des alliés. Avant, on avait besoin de postes de radio. Aujourd'hui, on peut écouter la radio avec son téléphone. Il y a aussi une nouvelle forme de médias, donc les podcasts, qui quelque part rejoignent un peu les radios. Et il y a des radios qui s'adaptent, qui font des podcasts en ligne. Et moi, je trouve que c'est en fait des chemins vers lesquels l'évolution technologique pousse maintenant l'adaptation des médias classiques.
Et parlant de cette situation, est-ce qu'on peut dire que les radios communautaires sont-elles les plus fragilisées par rapport à cette évolution numérique?
Alors, d'une part, certainement oui, parce que les radios communautaires, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sont encore celles qui bénéficient du moins d'outils avancés. Ce sont celles qui ont les moins de techniciens formés sur des questions de technologie numérique à la pointe de 2026. Donc oui, ce sont les radios qui sont les plus dans des besoins aujourd'hui d'être accompagnées pour pouvoir suivre le pas de cette transformation digitale.
Mamoudou Bokoum, le numérique est-il aujourd'hui une menace ou une opportunité pour les radios du Mali en général?
Vous savez, bon, je l'ai toujours dit, vous savez, le numérique, pour nous, c'est une opportunité. C'est une opportunité en ce sens que quand vous prenez, par exemple, une radio qui diffuse dans sa seule circonscription, elle limite ses auditeurs à la seule circonscription. Maintenant, avec le numérique, avec les podcasts, avec quand même les plateformes digitales que ces différentes radios mettent en place et transposent les émissions, non seulement elle touche plutôt ceux qui sont dans sa circonscription, mais aussi au-delà de sa circonscription. D'abord, les ressortissants de sa circonscription qui sont ailleurs reçoivent les infos qui les concernent directement et tout par des là tout le monde entier. Donc c'est grâce au numérique. Donc moi je dis toujours que au lieu que ça soit une menace pour nous, c'est une opportunité à saisir et on est obligé d'y aller. Et un deuxième aspect, c'est ça permet quand même de trouver un nouveau modèle économique, parce qu'aujourd'hui vous savez, avec la situation dans laquelle le pays se trouve et les radios particulièrement, les radios vivent dans une situation précaire, il faut le dire, il faut pas avoir peur des mots, mais avec le numérique et développer un nouvel modèle économique, je crois que ça pourrait plus arranger et servir les radios que ça ne soit une menace. Donc je crois bien et je suis certain que ce numérique-là nous sert plus que ça ne nous dérange.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire, aujourd'hui, avec l'évolution et cette situation que nous avons aujourd'hui, le numérique, si beaucoup de radios du pays sont en train d'emboîter le pas avec les streaming, les Facebook Live, les WhatsApp, etc. Est-ce que ça se passe actuellement?
Beaucoup ont commencé, même à l'intérieur du pays. Vous savez, nous, notre force, c'est que la majeure partie des radios du Mali se trouve à l'intérieur. Le Mali ne se limite pas qu'à Bamako. Donc, c'est 1 248 000 et quelques kilomètres. Donc, il faut comprendre que le paysage radiophonique malien est jusque dans la dernière commune du Mali. C'est vrai que il y a cette fracture numérique qui ne dit pas son nom, parce qu'en dehors des capitales régionales, des chefs-lieux, des cercles, quand vous allez un peu à l'intérieur, c'est difficile un peu d'avoir une connexion stable qui nous permette vraiment de faire convenablement ce travail, de travailler convenablement avec le numérique. Mais qu'à cela ne tienne, il y en a certaines qui se débrouillent jusqu'à présent avec des méthodes, des initiatives qu'eux-mêmes ils prennent, des stratégies qu'ils développent pour leur permettre quand même de, ne serait-ce qu'à travers WhatsApp et des groupes WhatsApp, transposer les émissions là-bas pour permettre quand même à la majeure partie de leur population et au-delà de les recevoir, de savoir ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les radios, tant bien que mal, se débrouillent en tout cas avec les moyens de bord pour vraiment s'adapter à cette transformation numérique.
Awa, il l'a dit, l'importance, les radios qui se débrouillent tant bien que mal. Mais dans ce secteur également, comme il l'a dit, c'est plus les communautés à l'intérieur du pays. Vous l'avez dit également à l'entame de vos propos, le numérique n'est pas quelque chose dans les coins les plus reculés du pays. Est-ce que cela expliquerait aujourd'hui pourquoi beaucoup de radios n'ont pas encore pris le virage numérique du pays? Et s'agissant également des compétences, est-ce que les radios du Mali en général, pas celles qui sont dans les capitales régionales, sont vraiment outillées et ont les moyens nécessaires aujourd'hui pour ce virage numérique?
Alors non, pour être vraiment sincère. très peu de radios aujourd'hui ont les moyens de suivre le pas vers cette transformation. Nous avons fait récemment une étude sur l'intégrité de l'information. Et cette étude nous a quand même permis de réaliser qu'aujourd'hui, les populations sont les plus proches de leur radio. C'est-à-dire que même lorsqu'elles vont sur les réseaux sociaux et qu'il y a des fausses informations, beaucoup de gens ont le réflexe quand même d'appeler l'auditeur, d'appeler la radio communautaire pour demander « Ah, j'ai vu ça, 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 est-ce que c'est vrai ?» Ce qui montre qu'aujourd'hui, les radios ont vraiment cette capacité-là de fédérer et de mobiliser la confiance des populations au niveau local. Donc, il y a aujourd'hui un réel besoin d'aller de plus en plus vers le renforcement de capacités à travers la professionnalisation ou sinon l'accompagnement des radios communautaires, parce que ce sont elles qui sont les premiers leviers de lutte contre et la désinformation, mais aussi de bonne information au sein des communautés. Donc, il y a des besoins spécifiques comme celle de la formation, il y a des besoins spécifiques comme celle de l'outillement, accompagner les radios à travers l'acquisition d'outils, les former pour leur utilisation et les accompagner tout au long de leur travail qui bénéficie vraiment toutes les communautés du Mali.
Mamoudou Boukoum, est-ce qu'aujourd'hui le numérique peut-il améliorer le revenu des radios ?
Mais ça, c'est nécessaire. C'est impératif, d'ailleurs, parce que, vous savez, avec, c'est vrai, je ne m'y connais pas beaucoup, mais les quelques bribes d'explications que j'ai eues, je crois que, pas que les radios seulement, avec le numérique qui ne gagne pas aujourd'hui. Vous savez, avec la monétisation des pages, des différentes plateformes, je crois que si les radios se profitent vraiment de cette numérisation, plutôt se profitent de ces différentes plateformes et aller vers ça, monétiser leurs pages, ce qui est sûr, ce qu'ils gagnent, en tout cas, à travers ce système-là, ils ne l'ont pas aujourd'hui. Là, il ne faut pas qu'on se leurre. Donc, ça peut aider convenablement les radios à générer des ressources, parce que les ressources qui viennent non seulement des grandes firmes-là, mais aussi des ressources qui peuvent venir, comme je l'ai dit, des ressortissants de sa zone de couverture qui sont à l'extérieur, qui peuvent accompagner cette radio à travers le travail qu'elle est en train de faire, le travail quand même de proximité qu'elle est en train de faire, mais qui quitte aux radios de produire de bons contenus, de contenus attrayants pour vraiment attirer leurs ressortissants, pour leur permettre quand même d'avoir beaucoup de comme on l'a dit, de likes, de partage, afin que cette monétisation puisse leur apporter quelque chose. Tant qu'il n'y a pas du contenu amélioré, de contenu important et de contenu qui serve en tout cas les autres différents auditeurs à travers différents canaux, ça ne pourra pas marcher. Mais tant qu'il y a cela, je crois que ça, c'est une source vraiment génératrice de revenus très importante pour les radios maliennes.
Ah ouais, la même question pour vous. Est-ce que aujourd'hui le numérique peut être rentable pour les radios partenaires? Si oui, comment elles peuvent procéder pour y arriver?
Alors, je dirais qu'il y a encore un peu de chemin à faire, en ce sens que les plateformes, les grandes plateformes comme Facebook, etc., ça va être difficile de rémunérer et d'avoir la monétisation parce que la manière dont leur algorithme fonctionne et leur procédure interne, c'est peut-être pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Mais dans l'immédiat, je pense que les radios peuvent taper sur l'engagement, le placement de produits. Il y a déjà certains médias qui le font très, très bien. Donc, aller vers cette interaction-là du public et essayer de maintenant vendre les compétences qu'ils ont à l'interne. Je pense que dans l'immédiat, c'est ce qui serait le plus faisable.
Il y a un phénomène que nous assistons de plus en plus dans le pays également, c'est le phénomène des infox. Et on sait que le numérique, il est là et on doit emboîter le pas. Est-ce qu'aujourd'hui, comment les radios peuvent mieux s'outiller aujourd'hui pour lutter contre cette désinformation en ligne?
Alors, je pense que c'est à travers la collaboration avec les blogueurs, avec les journalistes qui évoluent en ligne, les citoyens qui font aussi du journalisme. C'est-à-dire qu'il faut briser les barrières, il faut une collaboration. Il y a beaucoup de médias qui font de la lutte contre la désinformation, il y a beaucoup d'organisations qui en font. Et je pense qu'il y en a certaines qui vont vers les radios communautaires pour essayer de les capaciter à travers de la formation professionnelle, à travers une collaboration, que ce soit sur des groupes WhatsApp où on partage, par exemple, une information qui a déjà été vérifiée par un média en ligne qui est ensuite envoyée vers une radio locale. Donc, pour moi, aujourd'hui, il faut une collaboration impérative entre les acteurs qui évoluent dans ce domaine de la lutte contre la désinformation et les radios communautaires.
Mais est-ce que ça, c'est pas pour beaucoup, vous allez réagir par rapport à cette partie de l'émission, mais est-ce que, vu que si on prend dans nos communautés les plus reculées, souvent, l'homme de radio, c'est pas quelqu'un qui est allé très loin dans les études ou quelqu'un qui maîtrise ses outils dans nos communautés les plus reculées. Donc, il est là, il donne l'information qu'il reçoit. Est-ce que cette personne qui est dans son coin, moi, dans mon village, par exemple, j'ai une radio, celui qui est là-bas, il sait parler, il a l'art de parler, mais il ne maîtrise pas ces outils-là. Comment il peut faire attention, comment il peut démêler aujourd'hui le vrai de l'ivraie? Est-ce qu'il est outillé par rapport à ça?
Il peut ne pas être outillé. Mais s'il veut intervenir dans ce domaine-là, par exemple, les radios, il y a certaines radios aujourd'hui, il faut le dire, comme vous conviendrez avec moi, qui produisent aussi de la désinformation. Donc, il faut aussi qu'il y ait une surveillance par les pairs, que les pairs soient là pour interpeller leurs camarades, leurs collègues, pour les amener vers ce qu'on appelle la professionnalisation. Lorsqu'on décide de rentrer dans certains corps de métier, il faut connaître les tenants et les aboutissants. Donc, dans l'immédiat, le reach, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais comment atteindre, par exemple, les radios communautaires dans des zones où il n'y a pas de projet, programme ou qui peuvent les capaciter, c'est vraiment en s'appuyant sur maintenant des organisations comme l'URTEL, qui sont des fêtières qui regroupent tout le monde. C'est cette surveillance par les pairs qui, moi, je pense, peut faire la différence.
Beaucoup a parlé tout à l'heure des radios qui donnent de la désinformation, mais moi, je n'arriverai pas. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une mauvaise information également à leur niveau? Quand certaines radios se permettent de relayer des informations sans pour autant vérifier. Parce qu'à l'heure du numérique, vu que moi, dans mon coin le plus reculé du Mali, dans mon village, je ne maîtrise pas tout ça, je vois une info qui est donnée, je ne peux que la citer. Est-ce que ce n'est pas dû à ça également que ces radios-là sont mésinformées?
Bon, je ne dirais pas que les radios produisent, mais elles reproduisent. Parce que les radios reproduisent, quelques radios reproduisent. Mais bon, je crois que même avec ce défi numérique-là, ce manque de compétences dans la manipulation de ces outils, je crois que ce travail-là a des principes. C'est des principes qui régissent ce métier-là. Vous avez reçu une information, vous n'avez pas la capacité de vérifier si elle est vraie, mais vous avez un téléphone pour appeler, des collègues, des confrères sont partout. Moi, je crois que c'est-à-dire cette fracture numérique ne doit pas pousser les radios à aller vers la désinformation, elle aussi. Parce que la radio, elle est sérieuse, là. C'est comme une religion dans les communautés. Donc, tout ce que les radios disent, c'est pris vraiment avec du sérieux. Par conséquent, l'homme des radios doit être sérieux également pour ne pas diffuser une information qu'il ne pourra pas ou qu'il manque d'outils pour vérifier. Si on fait face à de telles situations, mieux vaut vraiment mettre ça dans le frigo, comme on l'a dit d'abord, en attendant de pouvoir avoir la vraie et la bonne information pour mettre à la disposition de tes auditeurs et auditrices. Donc moi, je ne pense pas si cette fracture doit permettre à une radio de relayer une fausse information. Parce que les principes sont clairs, il faut seulement respecter les principes pour garder cette crédibilité-là.
Et peut-être que les principes ne sont pas clairs pour tout le monde. Comment lutter donc contre cette désinformation en ligne?
pour lutter contre cette désinformation en ligne, la sœur l'a dit, il faut vraiment une collaboration des uns et des autres. Je crois que ça a même commencé. Il y a beaucoup de structures qui font le fact-checking. Après avoir vérifié des infos, ils les envoient aux radios qui les traduisent dans les différentes langues pour vraiment mettre à la disposition des différents auditeurs de différentes zones. Et cela ne peut pas aller sans cette collaboration-là. Et un, deuxièmement, c'est ce renforcement de compétences. Cela il va d'abord de l'animateur ou de journaliste personnellement d'abord, parce que tu as opté pour un corps de métier. Tu as opté pour une nouvelle façon de faire, tu es obligé de te renforcer. Donc la direction des radios doit s'y mettre. Ensuite, les organisations professionnelles des médias, notamment l'URTEL, les autres organisations, ils ont le devoir quand même d'aider leurs mandants à se mettre en phase avec la réalité du monde. Impérativement, l'État doit contribuer à cela, parce que les radios quand même de proximité, il faut le dire, jouent, qu'elles soient privées ou publiques, les radios là jouent un rôle de service public, par conséquent doivent être accompagnées dans ce sens, accompagnées dans le cadre de renforcement de compétences à tout moment, accompagnées dans le cadre de leur propre sécurité dans les zones qu'ils se trouvent. Donc je crois que c'est une moisson d'activités que tout le monde doit faire ensemble pour que vraiment on puisse lutter contre cette désinformation.
Alors, vous gardez la parole, alors vous me permettez, parce que vous deux, vous allez réagir sur cette partie-là également. L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle émerge partout. Est-ce que l'IA est une menace ou un outil de travail aujourd'hui pour les radios beaucoup?
Comme vous le savez, chaque avancée technologique a ses avantages et ses inconvénients. Pour moi, l'IA doit être un des alliés principaux des radios. En ce sens que, à travers ces outils, vous savez, la radio, c'est le son. L'IA peut t'aider à améliorer vraiment la qualité sonore que tu donnes. Sans le bon son, il n'y a pas de radio. L'IA peut servir cela. L'IA peut t'aider à travailler de façon rapide, à mieux structurer, mais l'IA ne doit pas se substituer à l'homme de radio. Vous savez, si vous avez beaucoup de chiffres aujourd'hui pour faire l'analyse des chiffres, l'IA peut t'aider à sortir les pourcentages, voilà, très rapidement, sans pour autant que ça ne soit cette IA même qui a généré ces chiffres-là. Tu as amené tes propres chiffres et elle peut t'aider à faire le graphique, etc., et analyser les chiffres, te sortir les pourcentages, etc., etc. Mais l'IA ne peut pas être plus intelligent que toi, parce que c'est un outil que l'homme même a créé. Tu ne peux pas être plus intelligent que l'homme que tu as créé. Mais, sauf que la plupart des cas aujourd'hui, on voit que les acteurs qui l'utilisent tombent dans la paresse intellectuelle.
Oui, s'agissant de cette paresse intellectuelle, est-ce que on ne peut pas dire que l'utilisation de l'IA pose un problème à l'éthique et à la fiabilité aujourd'hui?
Justement, il faut l'utiliser de façon éthique. Comme on l'a toujours dit, une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, il faut avoir une conscience professionnelle pour savoir que cette IA-là ne doit pas te remplacer. Ne peut pas te remplacer et ne doit pas te remplacer. Donc, il faut qu'on ait cette conscience professionnelle et même si on doit l'utiliser, en tout cas, il y a une proportion qu'on ne doit pas dépasser par crainte d'être substitué par cet outil.
Par crainte d'être remplacé par l'IA, l'homme de radio, par crainte que l'homme de radio ne soit remplacé par l'IA.
Et ça ne doit pas être le cas. Ça ne doit pas être le cas, pas du tout. Donc, c'est pourquoi je dis toujours aux gens, chaque nouvelle avancée qui arrive, il y a des opportunités, il y a des inconvénients. Donc il faut saisir les opportunités et laisser les inconvénients de côté pour quand même rester crédible. Parce que quand un homme de médias perd sa crédibilité, mieux vaut qu'il cherche un nouveau métier qui n'est pas celui-là.
Awa, faut-il aujourd'hui encadrer son usage dans les médias à l'intelligence artificielle?
Je pense que c'est vraiment une question d'éthique et de déontologie, comme vous l'avez si bien souligné. Je me souviens, lors d'une formation, il y avait Salif Sanogo qui nous avait dit que lorsqu'un journaliste, par exemple, utilise l'IA, que ce soit pour écrire ou pour générer un texte ou une image, il doit le mettre en bas de page pour la personne qui lit. Parce qu'aujourd'hui, il y a un autre besoin pressant dans nos communautés, c'est celle de l'éducation aux médias. Donc, pour ne pas amener les gens à confondre la réalité avec ce qui n'est pas généré ou ce qui est généré, il faudrait que les journalistes intègrent cette composante-là, de dire « j'ai utilisé l'AI pour faire telle chose dans ce produit et c'est pour cela que vous avez ce rendu ». Je pense que ça, c'est une première étape. La seconde étape, c'est qu'il faut aussi aller vers, comme Bokoum l'a bien expliqué, une professionnalisation. L'IA, en fait, peut être un outil pour accroître la productivité, mais elle ne doit pas remplacer ce côté humain. Elle ne doit pas remplacer le rédacteur en chef, parce qu'à la fin de la journée, les médias, dans chaque média, vous avez un rédacteur en chef, et c'est ce qui permet de bien stabiliser l'information et de maintenir la crédibilité de l'information au sein de la communauté. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans un monde où tout est généré par l'AI. Et aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux, on le voit très, très rapidement.
Alors, 13 février, journée de la radio, nous avons tendu notre micro à des professionnels des médias et à des auditeurs. Écoutons leur réaction sur la radio et les infox. Un reportage de Draman Maïga.
Des centaines de radios émettent chaque jour à travers le pays. Pour certains auditeurs, toutes ne jouent pas pleinement leur rôle d'information fiable.
Les radios font des désinformations. Je pense que ça a des conséquences graves sur le public.
Ça dépend du type de radio qu'on écoute. Au Mali, il y a une multitude de radios qui tombent dans l'amateurisme, contrairement à d'autres qui font ce qu'ils ont à faire de façon professionnelle.
Pour des spécialistes des médias, plusieurs facteurs expliquent cette dérive. La course aux coupe ou encore le manque de vérification des faits. Aliou Diallo, chargé de programme de fact-checking à Bembéré, cite d'autres causes.
On peut parler du manque de professionnalisme. Il y a la théâtralisation de l'information, une course à l'audience.
Pourtant, la radio reste le média de l'instantanéité, de proximité et de la confiance. À ce titre, elle a un rôle clé à jouer dans la lutte contre la désinformation. Al-Husseini Al-Haji, directeur de la radio Djamana de Tombouctou.
Très souvent, on dit « telle radio a dit ». Donc, si telle radio a dit, ça veut dire que c'est comme une parole d'évangile. Donc, les radios doivent faire en sorte que non seulement elles vérifient les informations qu'elles publient, mais en même temps, je vais à cette mission de veille.
Radio comme rempart ou vecteur d'infox, tout dépend de l'usage qu'en font ces acteurs.
Un reportage de Draman Maïga. Il ne reste que 2 petites minutes pour clore cette émission. Vous avez 30 secondes chacun. Que faut-il faire aujourd'hui pour que la radio malienne reste forte à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle? Hawa.
Je pense qu'il faut aller vers la collaboration, particulièrement avec les organisations de tech, de civic tech, comme tu indiques, qui ont toujours leurs portes ouvertes pour travailler avec les radios au niveau local. Nous sommes ouverts au partenariat pour pouvoir assurer l'intégrité de l'information au Mali. Merci.
Beaucoup.
Je crois que les radios, comme on l'a dit, on ne cesse jamais de le dire, doivent s'adapter. Doivent rester derrière les principes qui l'encadrent et pour vraiment garder cette instantanéité et cette fiabilité et cette confiance qu'elles ont, en tout cas avec les différents auditeurs. Donc je profite pour souhaiter une bonne fête de radio à tous ceux qui évoluent dans ce médium que je préfère plus que travailler à la banque, parce que c'est un médium qui constitue un pilier même de la communauté. Et donc bonne fête à tous et à toutes, et rester toujours professionnel et honnête professionnellement pour qu'on puisse garder cette confiance avec nos différents auditeurs et auditrices.
Merci beaucoup Mamoudou Bokoum, et retenez qu'en cette journée de la radio, que nous retenons que ce média n'est pas dépassé, il évolue, se transforme et continue de jouer un rôle essentiel au Mali. Numérique et intelligence artificielle peuvent être des leviers à condition que l'humain et l'éthique et la proximité restent au cœur de la radio. N'est-ce pas Mamoudou Bokoum?
Tout à fait.
Merci à nos invités, Hawa Koulibaly de la Fondation Tundi, Mamoudou Bokoum, le président des radios du Mali, je préfère vous appeler ainsi, de l'URTEL, l'Union des radios et télévisions du Mali. À la régie son et vidéo, il y avait Amadou Sanogé et Mamadou Ouattara. Je suis Mariam Maïga, la modération de cette émission. Vivement le 13 février 2027. D'ici là, bonne journée à toutes et à tous. Oh,